Extrait numéro 4, chapitre 6. En arrivant au chemin de fer de Berlin, que nous prîmes à 4 heures de l'après-midi, nous trouvâmes d'André qui nous avait précédés en discussion grave avec les employés du chemin de fer préposés au département des chiens. Décidément, notre meute était la pierre d'achoppement. Cependant, toute chose arrangée à la satisfaction des voyageurs, des chats, des chiens et des tortues, nous montâmes dans nos wagons et le train, qui n'attendait pour partir que la fin de notre discussion scientifique, se mit en route. Ne me demandez pas ce qu'il y a de remarquable sur la route de Cologne à Berlin. Il faisait une si cruelle chaleur et surtout une si abondante poussière que nous fûmes obligés de tirer les rideaux de notre caisse et de chercher des distractions puisées à notre propre fond. Les concessions que chacun fit sur ce point à la société nous menèrent jusqu'à 10 heures du soir, moment où chacun souhaita le bonsoir à son voisin et tâcha de s'endormir pour son compte. Je n'ai que 2 souvenirs très vagues de cette nuit. Le premier, celui d'un sorbet aux fraises que m'aurait apporté Home et qui me produisit une délicieuse mais trop fugitive impression. Le second, celui d'avoir vu en levant les rideaux de mon wagon une espèce de ronde du sabbat dansée par des lièvres. Mais peut-être n'était-ce qu'un souvenir de mon dernier voyage à Mannheim où pendant toute une journée je vis à gauche et à droite de la route suivie par notre locomotive une véritable légion de ces animaux se livrant aux ébats les plus fantastiques. Ô Allemagne, Allemagne, terre promise des amants et des chasseurs ! La nuit s'écoula, le jour vint, et nous nous réveillâmes ensevelis comme des habitants de Pompéi sous une couche de sable. Chacun fit son trou, ouvrit les yeux, regarda son voisin et lui éclata de rire au nez. Les compliments vinrent après. La comtesse était poudrée à la maréchale, et on n'aurait jamais cru que la poudre lui alla si bien. À 11 heures du matin, nous arrivâmes à Berlin. Nous trouvâmes des voitures qui nous attendaient au débarcadère et un déjeuner qui se confectionnait à l'hôtel de Rome. Missa m'avait poursuivi sa route sans s'arrêter à Cologne, et arrivée à 6 heures avant nous à Berlin, avait tout ordonné. Notre premier cri fut de demander si l'on pouvait prendre des bains. Il y en avait justement dans l'hôtel. Ces bains étaient situés dans un sous-sol d'une délicieuse fraîcheur. J'avais résolu de ne voir absolument personne à Berlin et d'y garder un incognito royal, non point que je fisse fi le moins du monde de la ville de Frédéric II, mais malgré le taffetas d'Angleterre et le diachylum du docteur, le furoncle qui m'était poussé sur la pommette de la joue avait pris une telle dimension que je désirais ne point me montrer dans un pareil état. À peine étais-je dans ma baignoire que l'on frappa à ma porte et qu'avec cette intonation mélancolique qui tient à ce que 60 fois par jour je répète à Paris le même mot, je criai « Entrez !» Un garçon profita de la permission, se montra sur le seuil et me remit une carte. On savait déjà à Berlin que j'étais arrivé. Quel était le courrier inconnu, quel était le pigeon voyageur, quel était le télégraphe électrique qui m'avait trahi? C'est sans doute ce qu'allait me dire la carte que l'on me remettait. Je lus Alexandre Dunker, libraire. Un libraire, cela rentrait presque dans la famille, et il n'y avait pas à se gêner. Je criai une seconde fois « Entrez !» Monsieur Dunker entra. Il avait appris mon arrivée, par qui je n'en sais rien, et venait se mettre à ma disposition pour parcourir la ville. Je mis en avant mon furoncle, mais Monsieur Dunker me fut observé qu'au point où il en était, la chose cessait d'être laide pour devenir curieuse, et ne voulant point priver les Berlinois de cette curiosité, je promis au digne libraire que j'irais le chercher à 2 heures à son magasin et que nous arpenterions la ville, Moinet, lui et moi. À 2 heures, nous étions à son magasin. J'insistai pour que notre première visite fût au nouveau musée, où Kaulbach est en train de peindre sa 6e fresque. Monsieur Denker fut d'autant plus disposé à se rendre à notre demande que c'est lui qui édite les gravures de ses fresques. Si Théophile Gautier était à ma place avec son admirable talent de narrativité plastique, il vous raconterait ses 6 fresques, depuis l'alpha jusqu'à l'oméga. Mais je n'ai fait que passer devant elle, avec des souliers qui me gênaient, et tout le souvenir qui m'en reste, c'est qu'elles sont fort belles et que l'école allemande, celle de Berlin en particulier, excelle dans la peinture murale. Les figures, surtout, destinées à représenter l'architecture, la poésie, la peinture et la musique, sont splendides. Peut-être ferais-je une légère observation à M. Kaulbach, mais si légère que soit une observation, un homme de son talent peut en faire son profit. Dans sa fresque de l'architecture, les 2 figures ailées qui apportent l'une le Parthénon, l'autre la cathédrale de Strasbourg, sont de la même espèce. Cela nous paraît une erreur non seulement artistique et archéologique, mais encore religieuse. Ces 2 figures devraient avoir chacune le caractère du monument qu'elles apportent. L'une devrait être un génie, l'autre devrait être un ange. L'escalier nous conduisit au salon grec. C'est à la fois un musée avec des fresques modernes d'une grande valeur et des statues antiques d'une grande beauté. Mais hélas, comme partout, le musée antique semble n'avoir été rapproché du musée moderne que pour faire ressortir l'infériorité des sculpteurs de nos jours vis-à-vis de ceux de la Grèce. Aujourd'hui, un sculpteur étudie 2 ou 3 ans l'anatomie dans un amphithéâtre. Il sait aussi bien qu'un médecin où sont les biceps, le deltoïde et le couturier. Il connaît le mécanisme ingénieux à l'aide duquel agissent en 2 sens opposés le radius et le cubitus. Tout cela n'empêche pas que lorsqu'il s'agit de faire transparaître ses muscles sous la peau par un effort quelconque, il n'est pas un sculpteur, Michel-Ange excepté, qui ne se trompe ou sur la place du muscle ou sur sa valeur. Les Grecs, au contraire, ne connaissaient pas scientifiquement l'anatomie. Chez ces apôtres du beau, c'eût été un sacrilège que de mettre en morceaux un cadavre après sa mort. Hippocrate nous raconte lui-même que pour avoir quelques notions de notre structure, il était obligé de suivre les armées et étudier sur les champs de bataille, à l'aide des effroyables blessures faites sur les cadavres par les haches et par les glaives à 2 tranchants, l'intérieur du corps humain. Après les Grecs, les chrétiens firent la même défense, mais par un motif opposé, presque tous esclaves, presque tous malheureux, presque tous appartenant aux classes inférieures de la société, ils regardaient la mort non pas comme un malheur, mais comme une délivrance. Aussi eût-ce été un crime pour eux que d'aller chercher dans la mort un moyen de prolonger la vie. L'esclave ou le malheureux ne meurt jamais assez tôt. Eh bien, malgré cette ignorance de la musculature, l'Antiquité nous donne le Laocoon, le gladiateur mourant, les lutteurs, l'Hercule Farnèse, le rémouleur, et 20 autres, 100 autres, 1000 autres chefs-d'œuvre. Quelle mine que cette Grèce qui, sous Périclès, défraie Athènes, Corinthe, Syracuse, sous Auguste, Rome, Alexandrie, Naples, Tarente, Arles, Herculanum, Pompéi, et sous Napoléon, Paris, Londres, Madrid, Vienne, Pétersbourg, Berlin. Le monde! Maintenant, d'où vient cette perfection chez Praxitèle, chez Phidias, chez Cléomène et chez 20 autres sculpteurs inconnus qui nous ont laissé cette armée de marbre, cette forêt de chefs-d'œuvre? De la vue éternelle du nu, de l'instinct du beau, de la mémoire de la forme, 3 choses qu'il est impossible de rencontrer dans l'art moderne. Que voulez-vous ? Nous avons la vapeur, l'électricité, les chemins de fer, les ballons et les journaux que les anciens n'avaient pas. On ne peut pas tout avoir. Nous avons même le monument de Frédéric le Grand par Raure, mais quoique fort vanté par les Berlinois surtout, cela ne vaut pas la simple statue équestre de Balbus retrouvée à Herculanum et qui n'est déjà plus de l'art grec, mais de l'art romain. Quant à la ville de Berlin elle-même, je ne puis rien vous en dire de mieux que ce qu'en dit mon guide franco-allemand. Entre guillemets, Berlin, capitale de la Prusse, renferme 13 000 maisons et 480 000 âmes, en y comprenant la garnison, forte de 16 000 soldats. Cette ville, une des plus considérables et des plus régulières de l'Europe, a 4 lieues de circonférence, 300 rues, dont la Friedrichstrasse, longue de 4200 pas, et la promenade d'Unter den Linden, de 2088 pieds de long sur 170 de large, à l'entrée de laquelle se trouve le château royal, de 400 pieds de long, de 100 pieds de haut et percé de 420 fenêtres. Et bien maintenant, croyez-vous une chose ? C'est que dans une ville qui a 4 lieues de circonférence, 13 000 maisons, 300 rues, dont une longue de 4 200 pas, je n'ai pas pu trouver une chambre et un lit. C'est la vérité, cependant. À 8 heures du soir, j'allais être obligé, ou plutôt nous allions être obligés, Moinet et moi, d'aller demander l'hospitalité au roi de Prusse, qui, ayant un château de 460 pieds de long et 200 pieds de haut, ne nous l'eût probablement pas refusé. Lorsque je pensais à cette salle de bain si fraîche et à cette baignoire si large, où nous avions passé le matin en arrivant une heure de délices, je demandais si les salles de bain étaient occupées et si les baignoires étaient vides. Sur la réponse négative à la première question et affirmative de la seconde, je fis descendre 2 matelas et 4 draps et nous fis faire à chacun un lit dans notre baignoire. Voilà comment, cher lecteur, à la grande stupéfaction des Berlinois attardés qui me contemplent par le soupirail qui me sert de fenêtre, je vous écris de ma baignoire, où je prie Dieu de me donner un bain de sommeil aussi rafraîchissant que le bain d'eau et de son que j'ai pris ce matin. Si jamais vous venez à Berlin, que vous teniez à loger à l'hôtel de Rome et qu'il n'y ait pas de chambre, demandez la baignoire numéro 1. Décidément, on y est à merveille. Nous partons demain au soir pour Stettin, où nous nous embarquons après-demain à 1 heure. Si la Baltique nous est amie, je pourrai continuer à écrire à bord du bateau qui nous conduira à Saint-Pétersbourg. À bord du Vladimir, 25 juin, entre le Danemark et la Courlande. La Baltique, quoique grise et terne, ainsi qu'il convient à une mer du Nord, est calme comme un miroir. Je puis donc tenir la promesse que je vous avais faite, ou plutôt que je m'étais faite à moi-même, de finir ce chapitre à bord du bateau à vapeur. 2 bateaux à vapeur font la traversée de Stettin à Saint-Pétersbourg, l'Aigle et le Vladimir. Nous sommes sur le meilleur des deux, le Vladimir. Vladimir, auquel notre bateau emprunte son nom, était, autant que je puis me le rappeler au milieu de la Baltique, sans dictionnaire et sans biographie, un des 3 fils de Sviatoslav, grand prince de la Russie. Il obtint dans le partage paternel, sans doute en vertu de son droit d'aînesse, Novgorod, dont la hautaine devise était « Qui oserait lutter contre Dieu et contre Novgorod la Grande ?» L'histoire vous dira comment Vladimir devint grand. Je me bornerai à vous dire comment il devint saint. D'abord, il tua son frère, comme Romulus, ce qui lui fit double part. Puis il épousa 6 femmes et eut 800 concubines, juste le chiffre de Salomon. Au nombre de ces 6 femmes est une princesse de Polotsk, Ronieda, dont il a massacré la famille et qu'il viola pour la décider à l'épouser. De ses 6 femmes et de ses 800 concubines, il eut 12 enfants, 38 de moins que Priam. Il est vrai que Priam en avait eu 19 d'écubes seulement. mais aussi les 12 enfants de Vladimir étaient tous des fils. Selon toute probabilité, il oublia de compter les filles. On lui avait proposé 4 religions, car vous supposez bien qu'un homme qui a commencé par tuer son frère, violer les princesses, avoir 6 femmes et 800 concubines, est éclectique en matière de culte. Mais Vladimir voulait faire une fin. La première religion qu'on lui proposa fut la musulmane. Vladimir secoua la tête. « Je ne veux pas, dit-il, d'une religion qui interdit le vin, liqueur indispensable aux Russes, et qui fait leur joie. » En conséquence, il repoussa la religion mahométane. On lui proposa le catholicisme, mais il secoua une nouvelle fois la tête. Le pape l'offusquait. « Je veux bien, dit-il, reconnaître un Dieu au ciel, mais je n'en veux pas reconnaître sur la terre. » On lui proposa le judaïsme. Mais le néophyte répondit « Il ne me paraît pas sensé de prendre rang parmi des vagabonds punis par le ciel et de partager la punition d'un crime que je n'ai pas commis. » Enfin, on lui proposa la religion grecque. « Je ne sais quel mérite militaire en faveur de celle-là, mais je sais qu'il l'adopta. » Or, comme Vladimir ne savait pas faire les choses à demi, à peine eut-il adopté sa nouvelle religion, qu'il dépouilla au profit de son nouveau dieu les faux dieux qu'il avait adorés jusque-là, les fit fouetter de verges par ses gardes et les attachant et les traînant à la queue des chevaux, les fit précipiter dans le Dniepr. Puis, pour que la grâce qu'il avait si miraculeusement touchée s'étendît à ses sujets, il commanda de réunir tous ses peuples comme des troupeaux, les poussa sur le bord des fleuves, les y fit baptiser par milliers, poussant à la suite d'une foule une autre foule et donnant à 10 000 hommes à la fois le nom du même saint. Tous ses mérites furent récompensés et le fils de Sviatoslav ajouta au calendrier le nom d'un nouveau saint, Saint Vladimir. Après vous avoir fait faire connaissance non seulement avec notre Spiroscaf, mais encore avec le saint dont il porte le nom, je vais vous présenter quelques-unes des personnes que nous rencontrâmes sur le pont. D'abord, la princesse Dolgorouki et ses 3 filles, dont la plus âgée n'a que 16 ans. La princesse s'en donne 50, mais je présume que c'est pour se sauvegarder en voyage et qu'elle n'en a que 35 à 40 tout au plus. C'est une femme fort instruite, plutôt sévère que gracieuse, mais qui devient certainement gracieuse quand elle consent à ne pas être sévère. Les Dolgorouki sont des Veliki Knyas, s'il en fut. Ils descendent de Rourik et s'appellent Dolgorouki, c'est-à-dire longue main, du surnom d'un de leurs aïeux. C'est le même surnom, Kartaxerxès, fils de Xérès. Un autre de leurs aïeux, le prince Grégoire, dit Rochta, le Bosquet, défendit le couvent de la Trinité de Saint-Serge de 1608 à 1610 contre 30 000 Polonais et Cosaques commandés par 4 héros, Sapieha, Lisowski, Tyrskiewicz et Konstantin Wisniowiecki. Enfin, une princesse Dolgorouki épousa en 1624 le tsar Michel Romanov, fondateur de la dynastie aujourd'hui régnante. Le prince Jacques Dolgorouki fut l'ami et le conseiller du tsar Pierre Ier. Un jour, il déchira en plein Sénat un oukase du tsar qui lui semblait injuste. Peu endurant de son naturel, Pierre se jeta sur lui l'épée à la main. « Tue-moi, lui dit le prince Jacques, tu seras Alexandre, et moi je serai Clitus. » Pierre, ramené à la raison par ses paroles, se jeta dans ses bras et lui demandant pardon en l'embrassant. Un autre prince, Jean Dolgorouki, fut l'ami intime de Pierre II, petit-fils de Pierre Ier. Quand l'impératrice Anne monta sur le trône et céda son pouvoir à cette abominable Birène qui, pendant le cours de sa faveur, fit périr 11 000 personnes, le prince Jean fut exilé en Sibérie avec sa famille, puis au bout de 9 ans rappelé de Sibérie pour être écartelé. Alors la princesse Nathalie, sa femme, vint à Kiev où elle prit le voile. Seulement, la veille du jour où elle prononça ses vœux, elle monta sur une falaise escarpée du Dniepr, et là, cette belle martyre qui avait échangé pour suivre son mari en Sibérie toutes les splendeurs du luxe contre une misérable cabane, ôta de son doigt sa bague nuptiale et la jeta dans les eaux du fleuve. Pendant 30 ans, elle survécut à son mari, et pendant 30 ans, pria pour celui qu'elle avait aimé. À l'heure qu'il est, il reste dans la famille Dolgorouki 3 hommes d'un mérite éminent. Le prince Nicolas Dolgorouki, ancien gouverneur général de la Lituanie, aujourd'hui gouverneur général de la Petite Russie. Le prince Élie, chef d'état-major de l'artillerie de l'Empire. Enfin, le prince Basile, qui a rempli avec distinction plusieurs missions diplomatiques et militaires. Après la princesse Dolgorouki, que nous avons fait passer la première en sa qualité de femme, nommons le prince Pierre Troubetskoï. Il vient de Paris, chargé de dépêches. C'est un homme jeune encore, il paraît 33 ou 34 ans. C'est la distinction de l'esprit réunie à celle du corps. Peu de personnes connaissent aussi bien que lui la grande question de l'émancipation qui se discute en ce moment. Et, quoi qu'il ait 1 million de rentes en jeu, personne ne la discute plus libéralement. Les Troubetskoï sont de la plus vieille noblesse russe. Ils descendent d'Olgerd, grand-duc de Lituanie, fils du grand Gédimine, père du célèbre Jagellon. Leur nom de Troubetskoï vient de Troubtchekt, dont ils ont été souverains. Le prince Dimitri, un de leurs aïeux, fut un des chefs les plus brillants de la guerre de l'indépendance au commencement du XVIIe siècle, alors que la Russie luttait contre les Polonais maîtres de Moscou et contre l'introduction du catholicisme que leur conquête amenait naturellement après eux. Après l'expulsion des Polonais, le Grand Conseil de l'Empire se réunit à Moscou vers la fin de 1612, pour procéder à l'élection d'un tsar fondateur futur d'une nouvelle dynastie. 3 candidats furent proposés, le prince Dimitri, le prince Ptislavski et le prince Pojarski. Le prince Dimitri, qui avait pour lui les Cosaques et une partie de l'armée, ne put parvenir à réunir la majorité. Ptislavski, porté par les boyards, disait à qui voulait l'entendre: « Je ne veux pas du trône. On m'a menacé de m'y faire monter, mais j'aime mieux me faire moine. » Pojarski, enfin, qui, sans que l'on pût jamais connaître la cause de sa répugnance pour le pouvoir suprême, le refusa obstinément et qui, à coup sûr, eût été nommé, idole qu'il était de la nation, de la majorité des communes et de l'armée. Ce fut alors, et ce que je dis ici pour le prince Troubetskoï nous servira tout à l'heure pour Pierre le Grand, ce fut alors que le boyard Théodore Cheremtev, marié à une cousine germaine de Michel Romanov, proposa d'élire ce dernier, qui, à peine âgé de 16 ans et d'un esprit doux et facile, se laisserait facilement pétrir aux formes constitutionnelles. Cette combinaison réussit, et le 21 février 1613, Michel Romanov fut élu tsar après 3 jours de combat, dont quelques-uns se livrèrent dans la chambre législative elle-même. Ainsi donc, si le prince Troubetskoï ne compte point de tsar parmi ses aïeux, il compte un des hommes qui eurent l'honneur de disputer le trône à la famille régnant encore aujourd'hui. Après les 2 personnes dont je viens de vous parler, le personnage le plus remarquable de notre bateau était un touriste anglais qui arrivait du fleuve Bleu, où il avait chassé le crocodile, l'éléphant et l'hippopotame, et qui, tout d'une traite, s'en allait à Tornéa pour voir le soldat à minuit. On sait que le soleil, à cet extrême nord de l'Europe, reste visible à l'horizon pendant toute la nuit du 23 au 24 juin. Ce qu'il y avait de curieux, c'est que c'était la seconde fois que notre Anglais faisait le voyage. La première fois, il s'y était pris trop tard ou trop tôt, il était arrivé au haut du mont Avasaxa, d'où cette expérience astronomique se fait, à 10 heures du soir, moulu de fatigue, éreinté, brisé. Là, il s'était endormi, en disant à son domestique, homme sur lequel il savait pouvoir compter, de l'éveiller à minuit. Le domestique resta fidèlement les yeux fixés sur la montre. À minuit moins 5 minutes. « Milord » cria-t-il. « Milord, réveillez-vous, il est minuit !» Milord ne répondait pas. On l'eût cru mort. Si une infirmité dont il était atteint eût constaté la présence de la vie, il ronflait. Le domestique le secoua par le bras. « Oh, John !» dit l'Anglais, « laisse-moi dormir !»« Mais vous m'avez dit de vous réveiller, mais c'est le dernier jour, mais demain il ne sera plus temps !»« Oh, je reviendrai l'année prochaine !» dit l'Anglais. Et il acheva sa nuit. Si pourtant, on peut appeler une nuit ces 12 heures du 23 au 24 juin, pendant lesquelles le soleil ne se couche pas. Il n'avait pu revenir l'année suivante, comme il avait dit, mais il revenait 3 ans après à quitter la promesse qu'il s'était faite à lui-même. Il était toujours suivi de son fidèle John. Je lui ai donné mon adresse et il m'a promis de m'écrire le 25 juin, poste restante à Paris, ce qu'il aura vu et l'impression que le spectacle lui aura produite. Revenons à Stettin et à notre voyage. Stettin, voilà une ville où je ne vous conseillerais jamais de vous arrêter. Quel lit, mon Dieu, un canapé mal rembourré sur lequel on étend un drap, que l'on recouvre d'une courte pointe piquée, le drap de dessous est lavé de temps en temps, la courte pointe jamais. Par bonheur, nous n'avions qu'une nuit à y passer, mais elle a duré longtemps. À 11 heures précises, le bateau s'est mis en marche, glissant sur l'Oder entre deux rives vertes comme l'émeraude et toutes parsemées de groupes de maisons à toits rouges. Cela ressemble singulièrement à la Normandie. Au bout de 5 ou 6 heures de navigation, nous nous sommes trouvés dans la Baltique. 1 heure ou 2 encore, nous avons pu voir les rivages de la Poméranie qui s'abaissaient graduellement et lentement au niveau de la mer, dans laquelle ils commencèrent à s'enfoncer avec les premières ombres de la nuit. Le passage et la nourriture coûtent par personne, de Stettin à Saint-Pétersbourg, 232 francs. En somme, pour 400 francs, on peut aller de Paris à Saint-Pétersbourg, nourriture et logement compris. C'est 10 sous à peu près la lieue. Vous voyez que ce n'est pas absolument ruineux. À 9 heures, on a pris le thé. Après le thé, on est venu causer sur le pont jusqu'à minuit. C'était la première fois que nous respirions depuis notre départ de Paris. Il fallut cependant se décider. Tout ce qu'il y avait de russe grelottait malgré le temps qui menaçait de pluie. Plusieurs personnes, et entre autres la comtesse, se sont fait faire leur lit sur le pont. Vers 2 heures, la pluie a commencé de tomber et, comme dans la chanson de je ne sais plus quel poète, il a fallu rentrer les blancs moutons. Le bruit qu'ils ont fait en fermant la bergerie m'a réveillé. La mer était houleuse. J'ai pensé que c'était le moment de faire comme notre Anglais sur le mont Avasaxa, c'est-à-dire de ne pas rouvrir les yeux. Je mis une telle persistance dans ma résolution que je ne les rouvris qu'à 7 heures du matin. Ma toilette faite, je montai sur le pont. La première chose que j'y vis, ce fut Home, pâle comme la mort. Il avait eu toute la nuit des communications directes avec la Baltique, Par bonheur, le beau temps était revenu. Le soleil, déjà un peu pâli, montait à l'horizon. La mer était bleue, immense et nue. Chacun se retrouva avec plaisir. La navigation de Stettin à Saint-Pétersbourg n'est pas assez longue pour que l'on ait le temps de la dédester. Un grand, beau, frais jeune homme blond de 26 à 28 ans s'approcha de moi dans l'intention de faire ma connaissance. Comme nous n'avons personne pour nous présenter l'un à l'autre, il se nomma. C'était un prince Galitzin. Les Galitzin sont de la plus vieille noblesse russe. Leur nom, ou plutôt leur surnom, vient de Galitza, gantelet. Le second des fils de Guédimine, fondateur de la dynastie des Jagellon, fut la souche des princes Avansky Galitzin et Kourakin. Cette maison est la plus nombreuse des maisons princières de la Russie. C'est au point que pour se reconnaître entre eux, ils se sont numérotés. « Vous êtes numérotés comme les fiacres, » dit un jour un empereur de Russie à l'un d'eux. « Oui, sire, et comme les rois, » répondit celui-ci. C'est un grand chasseur devant Dieu que le prince Galitzin. Pendant que je causais avec lui, il me fit remarquer que nous avions à notre gauche une terre en vue. Il me sembla que ce devait être l'île de Gotland.